Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En République démocratique du Congo, premier anniversaire ce vendredi de l'investiture du président Félix Tshisekedi à la tête de l'État. Amnesty International et l'ONG Journaliste en danger ont estimé aujourd'hui que les droits humains et de la presse restent toujours menacés en RDC. Un an après la première transition pacifique dans l'histoire du pays, l'insécurité et l'impunité continuent d'entraver la progression des droits humains en République démocratique du Congo, a déclaré Amnesty International dans un communiqué, en dénonçant plusieurs cas récents de manifestations pacifiques interdites ou dispersées avec violence. Pour sa part, l'ONG de défense de la presse, Journalistes en danger, un partenaire de Reporters sans frontières, affirme avoir documenté en cette première année de mandat une centaine de cas d'atteinte à la liberté de la presse, notamment un journaliste assassiné en novembre dernier et 14 autres en détention ou interpellés. Lors de son investiture il y a un an jour pour jour, le président du Tshisekedi avait promis de faire de la presse un véritable quatrième pouvoir en République démocratique du Congo. Contestation en Guinée maintenant, le président guinéen Alpha Condé devrait fixer sous peu la date d'un référendum constitutionnel, malgré les protestations contre ce que l'opposition dénonce comme une manœuvre du chef de l'État pour briguer un troisième mandat fin 2020. Ce référendum pourrait être couplé avec les législatives prévues le 16 février, a déclaré à l'AFP une source proche de la présidence guinéenne sous couvert d'anonymat. Pour sa part, le gouvernement note dans un communiqué jeudi soir que le Conseil des ministres a proposé au président la fixation d'une date appropriée de tenue du référendum. Une annonce qui risque d'accroître les tensions déjà vives en Guinée. Des troubles ont encore fait 3 morts jeudi à Labé, l'un des principaux foyers de la contestation, Abdourahmane Dia.
Le collectif qui anime la contestation n'avait pourtant pas appelé à la mobilisation, mais les tensions sont restées vives à Labé, dans le centre du pays. La ville est en ébullition, a déclaré hier le maire Mamadou Aliou Lali Diallo, qui ajoute qu'il y a eu 2 morts et au moins une dizaine de blessés, pointant du doigt les tirs des forces de l'ordre. Depuis le début des manifestations à la mi-octobre, au moins 23 civils et un gendarme ont été tués dans les violences. Les organisations de défense des droits humains dénoncent un usage excessif de la force. Un collectif de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile a fait descendre à plusieurs reprises des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes dans la rue. Il réclame que le président Alpha Condé renonce au projet qu'il lui attribue de se représenter fin 2020, alors que la Constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. M. Condé, 81 ans, se garde depuis des mois de se prononcer clairement.
Politique en Côte d'Ivoire, l'ancien chef de la rébellion ivoirienne et ex-premier ministre Guillaume Soro, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt sous l'accusation d'avoir préparé une insurrection civile et militaire dans son pays, a déposé plainte à Paris en France contre le procureur d'Abidjan. C'est ce qu'ont fait savoir jeudi ses avocats. Ancien chef de gouvernement et ex-président de l'Assemblée nationale, M. Soro, qui a annoncé sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020, avait tenté le 23 décembre de revenir en Côte d'Ivoire après 6 mois à l'étranger. Mais après avoir appris qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, l'ex-leader rebelle était reparti en avion vers l'Europe. Plusieurs de ses proches, dont des députés, avaient été ensuite arrêtés. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel, au Mali, au moins 7 soldats maliens ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi lors de l'attaque de leur poste par des djihadistes dans le centre du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso. Ce secteur, ainsi que le Burkina et le Niger voisins, ont connu ces derniers mois une succession d'attaques djihadistes meurtrières contre des soldats et des civils, sans que les forces nationales et étrangères présentes dans la région parviennent à les enrayer.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Alerte au coronavirus, la Chine a relevé aujourd'hui à 25 morts et à 830 cas le bilan de l'épidémie dû à un mystérieux virus provoquant une pneumonie virale. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi la Commission nationale chinoise de la santé. Peu avant ce nouveau bilan, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait décidé de ne pas déclarer une urgence internationale face à ce nouveau coronavirus. L'OMS demande à Pékin d'assurer que le confinement de millions d'habitants soit de courte durée. Précision de Jacques Aristide.
La réunion du comité d'urgence de l'OMS a duré 2 jours. Son directeur général dit ne pas déclarer pour l'heure une urgence de santé publique de portée internationale, mais Tedros Adhanom Ghebreyesus ajoute ceci. Ne vous y trompez pas, c'est une urgence en Chine. Ce n'est pas encore une urgence sanitaire mondiale, mais cela pourrait le devenir, avertit-il. La Chine a confiné quelques 20 millions d'habitants autour de Wuhan. Le patron de l'OMS estime que la Chine a pris les mesures qu'elle juge approprié pour contenir la propagation du coronavirus à Wuhan et dans d'autres villes. Il dit espérer qu'elles seront à la fois efficaces et de courte durée. Et pour l'instant, ajoute-t-il, il n'y a aucune preuve de transmission interhumaine en dehors de la Chine.
Au total, plus de 40 millions de Chinois sont confinés dans leurs villes ce vendredi à la suite des mesures de protection contre la pneumonie virale. 13 municipalités ont pris des mesures de confinement dans la région de Wuhan, dans le centre du pays. La métropole de 11 millions d'habitants où l'épidémie a pris naissance le mois dernier. Actualité aux États-Unis maintenant. Au troisième jour du procès historique du président Donald Trump devant le Sénat américain, l'accusation a assuré jeudi que le chef de l'exécutif méritait d'être destitué parce qu'il s'était pris pour un roi. Au lendemain d'une séance consacrée à exposer les faits, les procureurs démocrates se sont évertués à démonter les arguments avancés dans les médias par les défenseurs du président qui ne se sont pas encore exprimés à la barre. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
D'emblée, Jerry Nadler, qui est également président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, a accusé le locataire de la Maison-Blanche d'avoir eu une conduite mauvaise, illégale et dangereuse. Le président Trump a commis un abus de pouvoir en demandant à l'Ukraine d'annoncer une enquête sur Joe Biden, son adversaire potentiel, à la présidentielle du 3 novembre, afin de le mettre à genoux, a plaidé M. Nadler. Pour lui, la destitution est la réponse ultime de la Constitution à un président qui se prend pour un roi. Les démocrates ont voulu prendre au mot les défenseurs de Donald Trump qui affirment que la procédure de la destitution n'est pas pertinente. Au total, l'accusation dispose de 24 heures sur 3 jours pour défendre son dossier. À partir de samedi, ce sera le tour de la défense pour la même durée. Puis les deux camps auront 16 heures pour répondre aux questions posées par les sénateurs par écrit. Ils devront ensuite décider à la majorité simple s'ils veulent prolonger l'exercice en convoquant de nouveaux témoins, comme le réclame l'accusation. Sinon, ils passeront au vote sur la culpabilité du président. Il faudrait une majorité des 2/3, 67 voix pour le destituer, un seuil a priori inatteignable, la Chambre haute étant sous le contrôle du Parti républicain de M. Trump.
Actualité américaine toujours, l'administration de Donald Trump va limiter les visas octroyés aux femmes enceintes soupçonnées de venir aux États-Unis pour que leur enfant bénéficie automatiquement de la nationalité américaine à la naissance, ce que les juristes appellent « jus soli », le droit du sol. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
À compter d'aujourd'hui 24 janvier 2020, le département d'État ne va plus délivrer de visa de visite temporaire aux étrangers qui veulent entrer aux États-Unis pour du tourisme de maternité, a annoncé hier la Maison-Blanche dans un communiqué. Les nouvelles règles visent clairement les femmes qui se rendent aux États-Unis pour y accoucher afin de permettre à leur enfant d'obtenir automatiquement et de manière permanente la nationalité américaine. Ce changement réglementaire est nécessaire pour renforcer la sécurité, le système d'immigration des États-Unis et l'intégrité de la citoyenneté américaine, explique la présidence américaine. Elle estime que l'industrie du tourisme de maternité menace d'être une surcharge pour les hôpitaux du pays, sans compter qu'elle alimente les activités criminelles. Mettre fin à ces failles flagrantes du système américain va permettre de combattre ces abus endémiques et en fin de compte protéger les États-Unis, a insisté la Maison-Blanche, assurant vouloir aussi défendre l'argent des contribuables américains. Il suffit de naître aux États-Unis pour devenir américain.
Et pour terminer, le président Donald Trump a déclaré jeudi qu'il dévoilerait probablement mardi prochain son plan de paix pour le Proche-Orient. L'autorité palestinienne a réitéré également hier son rejet du projet de paix de la Maison-Blanche, mettant en avant le fait que le président Trump avait reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.